7h13.
Les matins de France Culture, jusqu'à 9h. Guillaume Herner.
La colère monte face à la hausse des taxes sur les prix des carburants. Plus de 760 000 signatures pour une pétition sur change.org réclamant une baisse des prix du diesel et de l'essence. Des appels à bloquer les routes le 17 novembre. 5 millions de vues pour une vidéo accusant l'exécutif de mener, je cite, une traque aux conducteurs. Hier, Emmanuel Macron a assumé ses choix en la matière. Quel est aujourd'hui le poids de l'argument écologique face à celui du pouvoir d'achat? Bonjour Mathieu Glachan. Vous êtes professeur d'économie aux mines ParisTech. Alors tout d'abord, il faut restituer le poids du prix des carburants et du budget automobile des ménages pour qu'on se figure de quoi on parle.
Donc on a un budget transport des ménages en moyenne, sachant qu'il peut y avoir beaucoup de variations, notamment spatiales, entre le milieu rural et le milieu urbain, qui est de l'ordre de 13%. Et là-dessus, l'essentiel, c'est un budget automobile. Et là-dessus, une petite moitié va être de la dépense énergétique. Parce que par ailleurs, il faut acheter aussi des voitures qui sont très chères, 20 000 euros, etc. Il ne faut pas l'oublier.
Absolument. Voilà. Donc, on a un budget d'environ donc 17 à 18%. Si on le compare aux autres masses, par exemple, par rapport au logement, qu'est-ce que ça pèse?
Le logement, qui est en augmentation continuelle, c'est d'ailleurs une spécificité française, c'est d'ailleurs peut-être un problème français, c'est de l'ordre de 26-27% maintenant. Pas loin du double. C'est un gros sujet.
On voit aussi qu'il y a de profondes disparités. Alors, vous avez évoqué un pourcentage moyen, mais bien entendu, le poids du budget automobile diffère si l'on habite dans des zones rurales. Il y a probablement aussi beaucoup de ménages qui peuvent se passer de voiture s'ils habitent des grandes villes.
Exactement. Bon, c'est assez évident. Sachant que de ce point de vue-là, le fait qu'on vient de parler du budget logement est important parce que c'est vrai que dans le monde rural, le budget transport est beaucoup plus important, mais le budget logement est beaucoup plus faible. Il y a un peu des vases communicants entre les deux, évidemment. Quand on fait le choix de vivre dans des zones peu denses, eh bien, on circule beaucoup plus, mais on paye moins cher son logement.
Alors aujourd'hui, il y a donc une grogne très forte contre la fiscalité sur les carburants. Pouvez-vous nous dire là aussi de quoi on parle, Mathieu Glachan? Quelles sont les taxes qui sont aujourd'hui infligées à un litre de carburant?
Infligées.
Je l'ai dit en souriant.
Oui.
Bon, y a deux types... Je l'ai dit en souriant, mais cela dit, ça pèse véritablement sur le budget des ménages.
Bon, donc sur un litre d'essence, sur donc 1,50€ en gros aujourd'hui, 60% sont des taxes, deux types de taxes, de la TVA, comme sur n'importe quel produit, de ce point de vue-là, il n'y a pas de spécificité, à 20%, et puis ce qu'on appelle techniquement la TICPE, qui est une fiscalité spécifique sur l'énergie et qui comprend une composante carbone. Donc à l'intérieur de cette TICPE, il y a ce qu'on appelle par ailleurs la taxe carbone. Voilà. Donc c'est ça qui donc le prix hors taxe et le prix et les taxes augmentent en ce moment. Et d'ailleurs le prix hors taxe augmente beaucoup plus que le prix que le coût des taxes aujourd'hui.
Oui, mais on pourrait imaginer, en tout cas c'est ce que réclament ces 800 000 signataires donc d'une pétition, on pourrait demander au gouvernement qu'il contrebalance l'augmentation donc du prix des matières premières par une diminution des taxes, et apparemment c'est exactement le contraire qui va se produire, Mathieu Glachan, d'après ce qu'on peut lire.
Là, on revient finalement à une idée qui a été abandonnée, enfin qui a été mise en œuvre et abandonnée, qui s'appelait la TIPP flottante. Enfin bon, c'est donc l'ancêtre de la TICPE.
Grande invention de taxes.
Ouais. Où effectivement, on corrélait négativement, enfin d'un point de vue mathématique, c'est-à-dire que quand le prix du pétrole augmentait, on diminuait la taxe et inversement, permettant d'amortir et du coup d'ailleurs de stabiliser, mais pas forcément de manière horizontale, de manière stable, mais qui permettait de stabiliser les variations, en tout cas de limiter les variations. C'était une idée, de mon point de vue, qui était une idée pas du tout idiote, qui a été abandonnée avec des arguments du type complexité de mise en œuvre, etc.
Oui, parce que l'État, malgré tout, s'enrichit considérablement grâce aux taxes sur les carburants. Alors là, apparemment, il y a un certain nombre d'aménagements qui pourraient, je mets ça au conditionnel, être à l'étude pour les ménages les moins aisés. Mais il y a quand même une forme d'injustice en France dans le fait qu'on a dieseliser le parc, comme on le dit joliment, inciter les ménages à acheter des véhicules diesel grâce à une fiscalité extrêmement favorable sur ce carburant. Puis aujourd'hui, c'est le diesel qui monte.
Effectivement, on a quelque part coincé un certain nombre de ménages avec une politique historiquement favorable au diesel, donc avec une taxe plus faible pour le diesel, hein, nettement plus faible, hein, 10 centimes d'écart, hein, qui n'avait pas d'ailleurs de justification environnementale ou économique. Le diesel coûte aussi cher à produire que l'essence. Il n'y a pas d'avantage économique aussi au diesel. Et puis par ailleurs, on a aussi fait dans la période récente des bonus-malus. Et les malus aujourd'hui, ils sont fondés sur des émissions de gaz par kilomètre, de gaz à effet de serre par kilomètre. Et donc, ils sont favorables au diesel. Donc là, on change quelque
part
le régime.
Il faut rappeler, Mathieu Glachan, que le diesel rejette plus de particules, mais il produit moins de CO2.
Alors, il produit pas moins de CO2 par litre, attention, il produit moins de CO2 par kilomètre. Il produit même plus de CO2 par litre, mais c'est compensé, plus que compensé, par le fait qu'il produit moins de CO2 par kilomètre, simplement parce qu'on consomme moins. Ce sont des véhicules qui consomment moins de litres de carburant.
Et ce carburant qui était largement favorisé, puisque je rappelle par exemple qu'en 2008, 80% des voitures neuves vendues en France étaient des voitures fonctionnant au diesel. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'on a un revirement complet. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce que par exemple, les Français vont basculer dans un autre mode de carburation, aller vers les voitures hybrides, les voitures électriques? Qu'est-ce qui pourrait se passer?
Alors, revirement complet... On parle de 5 centimes d'augmentation, donc on n'est pas sur de revirement complet, de mon point de vue. On est sur un changement graduel qui a commencé il y a 4-5 ans, hein, mais qui a été jusque-là invisible parce que le prix hors taxe des carburants diminuait à cause d'un baril qui était historiquement faible. Il a été à $40, ce qui historiquement est extrêmement bas depuis 4 ou 5 ans. Les Français doivent changer. On pense toujours, effectivement, à des solutions absolument radicales. On parle d'hybride, d'électrique, etc. Il y a plein d'autres choix qui affectent sa consommation de carburant. Et par exemple, en ce moment, le marché automobile, il est bouleversé par deux choses. Hein. L'augmentation de la part de marché de l'essence, mais il est aussi bouleversé par l'augmentation de la part de marché des SUV. Et quand vous achetez un 3008...
Un Peugeot
3008, pardon, par rapport à une Peugeot 308, vous faites le choix du confort, mais vous faites aussi un choix d'augmenter votre dépense de carburant.
Merci beaucoup Mathieu Glachan, je rappelle que vous êtes professeur d'économie aux mines Paris Tech et spécialiste de l'économie de l'environnement. Il est 7h21 sur France Culture.